franceinter.fr.
Votre invité Léa Salamé, sénateur de Vendée, Les Républicains, président de la région Pays de la Loire.
Bonjour Bruno Retailleau.
Bonjour Léa Salamé.
Avez-vous vu les images d'Alep bombardées, pilonnées, éventrées par l'armée russe ?
Je les ai vues comme tous les Français. Et cela fera sans doute l'objet d'une question d'actualité cet après-midi au Sénat. J'étais le premier parlementaire, vous voyez. J'étais le premier parlementaire en août 2014. C'était après la chute de Karakoche, à me rendre à Erbil. Et j'avais été extrêmement ému. J'avais recueilli des témoignages de yézidis, de chrétiens. Et j'étais beaucoup marqué par ça, notamment par une pauvre dame dont la fille avait été arrachée pour être vendue à Mossoul, au marché aux esclaves.
Le fioniste que vous êtes en appelle-t-il toujours à une grande alliance internationale avec Vladimir Poutine, quand vous voyez ce qu'il est en train de faire à Alep, là?
Bien sûr, je pense que Vladimir Poutine n'est pas toujours facile à suivre. Simplement, je pense que la diplomatie française a, depuis le départ, manqué à ses objectifs, à sa tradition, parce qu'on s'est trop aligné sur les États-Unis, au moment même où les États-Unis ne savaient plus où ils voulaient aller.
Mais là, les États-Unis sont absents, l'Europe est impuissante, et on est en train de donner la région aux Russes.
Vous avez raison, parce qu'on n'a pas su, parce que, la raison d'être de la France, sur le plan diplomatique, c'est d'être une puissance d'équilibre entre la Russie et les États-Unis. C'est traditionnellement ce que nous sommes, et ce message-là, nous n'avons pas su le porter, et donc nous avons laissé libre cours à la violence. Aujourd'hui, je pense que Daesh, l'État islamique, est l'ennemi public numéro un. Il faut donc une grande coalition internationale, évidemment avec l'Iran, évidemment avec l'Arabie saoudite, évidemment avec la Russie et les États-Unis.
Bruno Retailleau.
Et la Turquie, bien sûr.
Bruno Retailleau, votre parti, Les Républicains, est-il celui du gaz de schiste et des OGM?
C'est un raccourci très franc. J'ai eu un échange avec hier soir avec Luc Châtel,
c'est pas un raccourci.
Il m'a éclairé pour me dire que il a indiqué cette phrase un peu courte, effectivement, tout simplement pour dire que il ne voulait pas être celui, et nous ne voulions pas être le parti de la précaution et contre le progrès, mais au contraire de l'innovation. Je vais vous dire simplement, moi, je pense qu'il y a deux écueils.
C'est grave quand même de dire le parti du gaz des
schistes. Je pense qu'il y a deux écueils.
Ou alors assumez-le.
Je pense qu'il y a deux écueils. Moi, voilà ce que j'assume. Je ne veux pas être le parti des apprentis sorciers. C'est pas parce que la technique ou la science peut quelque chose qu'elle doit le faire. Science sans conscience, sur l'homme ou sur la nature. En revanche, je ne veux pas non plus de la décroissance. Je ne veux pas non plus de cette peur du progrès qui est en train de s'emparer un certain nombre de nos élites. Il faut trouver donc le bon équilibre. Et par exemple, sur ces questions-là, il faut pouvoir continuer la recherche. Parce que si on interdit la recherche, alors on interdit finalement toutes sortes de progrès techniques. Donc, il y a cet équilibre qui est fragile. Mais la vie est faite d'équilibre. La vie, c'est pas le noir ou le blanc. La vie, voilà, c'est souvent de la nuance. C'est ce qui rend la vie belle, parfois même difficile, je sais.
Donc, il reste d'autres écologistes aux Républicains, à part Nathalie Cossio-Morizet, vous nous rassurez ce matin. Oui.
Bien sûr.
D'accord.
Non, j'ai pas entendu. Bien sûr. Non, je voulais simplement dire que je pense que Luc avait plaidé pour l'innovation et non pas pour un anti-écologisme.
Ça fait 50 ans que l'idée d'un aéroport dans le Grand Ouest pollue la vie publique. 50 ans que la gauche et la droite se refilent cette patate chaude qui s'appelle Notre-Dame-des-Landes. Le référendum n'est-il pas le moyen de sortir une fois pour toutes de cette impasse?
Écoutez, je pense que c'est une idée qui est mal née. Parce qu'on sait parfaitement que c'était le prix à payer pour l'entrée au gouvernement, non pas des trois écologistes, mais d'une écologiste, de la patronne de LV. Première chose. Donc, c'est finalement une idée qui n'était pas là pour régler un problème, pour régler un blocage, mais c'était une idée d'un marchandage. Deuxièmement, il est mal ficelé. Pourquoi est-ce qu'il est mal ficelé? Parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il n'a pas de base légale, ni dans la Constitution, ni dans le Code général des collectivités, ni même dans cette fameuse ordonnance qu'on nous prépare.
Voilà, vous avez entendu Thomas Legrand, l'édito, c'est-à-dire qu'effectivement, les collectivités, vous êtes dans les Pays de Loire, vous êtes président de la région Pays de Loire, ce que tente de faire l'État, alors c'est compliqué, c'est qu'ils vont faire ce référendum local au niveau de l'État. C'est-à-dire que ce sera le préfet et non pas vous qui prendrez l'initiative.
Mais il n'y a pas de base légale.
Via la loi Macron. Voilà. La loi Macron, il y a une disposition de la loi Macron
une
qui
ordonnance.
Va être utilisée pour la première fois pour organiser ce référendum local. Je sais que c'est compliqué, que c'est complexe pour les auditeurs, même pour nous, mais ça peut se faire.
Non, ça ne peut pas se faire. Je vais vous dire, ou alors il faut modifier cette ordonnance.
C'est voilà, peut-être Manuel encore Valls peut changer la loi.
Le temps, puisque cette ordonnance interdit qu'on propose cette consultation pour des intérêts, pour des projets d'intérêt national. Or, comme c'est l'État qui a signé la déclaration d'utilité publique, l'aéroport est un sujet d'intérêt national. Simplement, ce que je veux dire, c'est
mais
que...
Mais pourquoi vous n'en venez pas sur le fond, peu importe les aspects juridiques? Pourquoi
je viens sur le fond,
ne pas accepter que cette affaire qui divise les gens? Parce que c'est deux visions de la société, une vision écologique et une vision économique du Grand Ouest.
C'est faux.
Pourquoi
là,
vous ne faites
vous réduisez.
Pas trop...
Vous faites la vie en blanc et en noir,
non,
Léa Salamé.
Non.
Écoutez, vous avez 155 décisions de justice. Vous vous rendez compte? Vous avez un projet soutenu par 6 premiers ministres, par 3 présidents de République. J'ai fait une élection régionale. J'ai été celui qui a fait le meilleur score à droite. Je l'ai fait notamment sur Notre-Dame-des-Landes. Et sur tous les plateaux, on m'a interrogé. Donc, il y a eu déjà des électeurs. Alors, dans quel pays du monde demande-t-on un référendum ou une consultation publique pour faire appliquer des décisions de justice, pour faire appliquer la loi?
Mais simplement, là, vous voyez bien que ça bloque.
Ce que je veux dire, c'est que le référendum...
Est-ce que vous êtes sûr que la population est d'accord? Vous
Léa Salamé, je pense que le référendum...
Pourquoi vous avez peur du peuple?
Je n'ai pas peur du peuple. Et je pense que le recours au référendum, quand il précède une décision, est positif. Simplement, vous aurez un problème. Parce que le gouvernement veut l'organiser sur une petite base qui serait la Loire-Atlantique. Moi, je suis de Vendée, je ne pourrais pas voter, par exemple. Alors que c'est un projet qui concerne la Bretagne et puis les Pays de la Loire, puisque le Conseil régional de Bretagne est dans le syndicat mixte. Et donc, la fondation Nicolas Hulot, par exemple, hier, disait « Mais attendez, nous, on ne reconnaîtra pas de légitimité à ce référendum sur cette base géographique. » Donc, on va peut-être faire un référendum sur le référendum, alors.
Ouais. Bon, vous n'êtes pas convaincu. Je ne sais pas si les auditeurs seront convaincus par ce que vous dites. On verra.
Non, mais je crois qu'il faut décider. Et une fois de plus, François Hollande a toutes les cartes pour décider. Mais il repousse la décision. Et je sais parfaitement que le référendum, ça va être un moyen, finalement, de procrastiner. C'est-à-dire qu'on va enfumer dans la mesure où, dans 6 mois, on sera tout près des présidentielles et qu'il n'y aura pas de décision d'évacuation d'Azad et qu'il n'y aura pas de décision de début des travaux. Voilà la réalité. Et on repassera la patate chaude après 2017. C'est tout. Voilà, c'est la réalité. Je suis désolé, je la dis comme je la pense.
Le président du groupe Les Républicains au Sénat prendra-t-il la responsabilité de faire échouer la réforme constitutionnelle qui
non,
arrive?
D'abord, ce n'est pas le président, il n'y a pas de caporalisation du groupe. Vous savez, les sénateurs sont des gens très très indépendants, très indépendants. Et moi, je veille à cette indépendance et à leur liberté. Simplement, on a annoncé avec Gérard Larcher depuis le mois de décembre. Donc nous, là-dedans, on n'a pas changé. On a dit, nous, oui pour la déchéance, non pour la patridie. Voilà. Et donc, on reviendra au texte que le président de la République et le Premier ministre, et d'ailleurs Mme Taubira, qui l'avait signé du 23 décembre, on reviendra à ce texte qui est un texte qui est clair.
Qui n'est pas le texte qui a été adopté par les députés, donc vous prenez le risque de faire échouer le
Non,
le
mais attendez.
Il faut le voter dans les mêmes termes.
Mais le Sénat n'a pas l'obligation d'entériner dans la Constitution les motions de synthèse du Congrès du Parti Socialiste, si j'ose dire. Parce que
résume à ça.
Mais oui, puisque vous avez eu Manuel Valls, il y a 3 semaines, vous trouverez sa déclaration, il dit « la ligne rouge, c'est la patridie ». Et on a traficoté ce texte, qui ne ressemble plus à rien, maintenant c'est autorisé de créer des apatrides. Et ce que nous voulons, nous, au Sénat, c'est de ne pas bricoler la Constitution, parce que c'est la loi fondamentale
de
la République française.
Donc vous allez réécrire le texte.
C'est vrai.
Merci à vous, Bruno Retailleau, d'avoir été
c'est
avec nous
qui
ce
vous
matin.
Remercie.
Et belle journée.
Merci, Léa Salamé.